Bonjour à tous. Si vous êtes arrivé en retard à ce culte, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes bien à l'ECE Grenoble et ce n'est pas une assemblée de l'ONU, par exemple. Et donc, ce culte est un culte particulier que nous faisons pour la première fois pour manifester, comme Raph l'a dit tout à l'heure, la diversité de notre louange apportée à Dieu. Et je vous rappelle la recommandation qu'il a faite tout à l'heure, c'est-à-dire que nous abstenions de manifester notre appréciation des choses par les applaudissements, mais que nous puissions le faire vraiment tout à la fin. J'avais pensé vous faire la prédication en italien. Mes parents étaient italiens. Mon épouse, je ne sais pas ce qu'elle est. Elle est américaine d'un père grec, d'une mère norvégienne irlandaise. Et je ne vous dis pas pour les enfants ce que ça donne, hein. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu dans le livre des Actes. Il va s'afficher ici pour que nous le lisions ensemble dans le même texte, au chapitre 17. Et c'est un discours de l'apôtre Paul chez des étrangers, les Athéniens. Il est sur la place publique d'Athènes. Et je vais vous lire simplement quelques extraits d'un discours qu'il fait. Discours au cours duquel il présente une histoire. Dieu, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver. Il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Dans ce discours, l'apôtre Paul expose une histoire qui commence à la création et qui se termine à la fin des temps. Et cette histoire, c'est celle que Dieu raconte aussi dans sa parole. Et on peut lire la parole de Dieu au travers de cette grille de lecture. Quel est le projet de Dieu avec les nations du début à la fin? Je vais vous la raconter en essayant d'être très succinct et très bref. D'abord, à la création, Dieu a placé l'humanité naissante dans le jardin de la grâce abondante de Dieu, de la bienfaisance, de la providence divine. Rien ne manque, tout est parfait. Une humanité à qui Dieu va donner la mission, l'ordre de mission, de multiplier et de remplir la terre à partir de ce point où se trouve au centre du jardin l'arbre de la vie. Retenez bien cette mise en scène. L'arbre de la vie qui symbolise la dépendance dans laquelle l'homme doit vivre de son Dieu, dans la bénédiction et la communion avec son Créateur. Survient, Genèse chapitre 3, la rupture, le péché, l'irruption du péché avec ses conséquences pour l'humanité tout entière, et nous sommes encore aujourd'hui sous le coup de ses conséquences. L'homme est chassé du jardin. Il est destiné à l'errance, alors que Dieu lui avait demandé de remplir la terre d'une façon un petit peu concentrique, si vous voulez, à partir du jardin. L'accès à l'arbre de la vie lui est désormais interdit, lui est barré. Et en fait, le péché qui est entré dans le monde ne va faire que s'accroître et aboutir, dans Genèse, dans les chapitres 6 à 10, au jugement du déluge. Après le déluge, l'homme n'a rien appris, l'humanité n'a rien appris de cette expérience. Et l'humanité se reconstruit à partir de la descendance de Noé et sa famille, seul survivant de ce déluge, de ce jugement de Dieu. Le péché est inscrit dans les gènes de l'homme. Et sa première réaction, au lieu de remplir la terre, comme Dieu l'avait donné, de se multiplier, eh bien, il profite du fait qu'il est dans une cohésion linguistique pour se concentrer à Babel, une ville qu'il a construite de ses mains et dans laquelle il va faire s'ériger une œuvre de ses propres mains qui est la tour de Babel. symbole, manifestation de l'orgueil de l'homme qui veut atteindre Dieu, nous serons comme Dieu, de sa démesure, une tour pour échapper à un prochain déluge éventuellement, une entreprise humaine qui manifeste donc son orgueil et l'opposition à Dieu, et le jugement de Dieu intervient à nouveau. C'est une dispersion forcée, un brouillage des langues, et c'est finalement des nations qui se retrouvent, au lieu d'être cohérentes les unes avec les autres, en bonne relation les unes avec les autres, des nations étrangères les unes aux autres. À partir de ce point, Dieu va entreprendre le programme de rédemption auquel il tient et qui constitue son dessein éternel pour l'humanité. Et ce dessein de Dieu, cette rédemption, il va d'abord la préparer par le choix d'un homme, Abraham, celui à qui cette promesse a été faite, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À partir de cet homme, Dieu va ériger une famille et puis un peuple, son peuple choisi. Et dans ce peuple, Dieu va manifester à plusieurs occasions au cours de l'histoire que ce peuple a une vocation pour les nations tout entières, pour la terre tout entière. Cela va se manifester par quelques exemples typiques d'adhésion de païens, d'étrangers à cette nation qui est le peuple de Dieu. Rahab, Tamar, Ruth, dont on se souvient de ces paroles mémorables, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Ces étrangers qui vont s'inclure dans la bénédiction du peuple de Dieu et qui dessinent déjà, avec des contours flous, le projet de Dieu. Et puis ça va être aussi des collectivités tout entières, les Gabaonites, les Kéniens, etc., qui vont se joindre au peuple de Dieu. La promesse qui a été faite à Abraham, elle va être réitérée à de multiples reprises. Et si vous prenez une concordance, que vous cherchez le terme « peuple », le terme « nation » dans l'Écriture, vous verrez que les occurrences sur les livres prophétiques sont extrêmement nombreuses. Ces nations qui seront appelées un jour à bénir l'Éternel, à le louer avec le peuple de Dieu. Et peu à peu, les contours flous se précisent. Et dans les prophéties, on voit apparaître le fait que c'est un homme envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu, qui sera celui par qui les nations seront véritablement bénies. Et on a ces expressions, j'en ai relevé que quelques-unes dans le livre d'Ésaïe. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples », Ésaïe 56, verset 7. Et c'est par cet envoyé de Dieu, mon serviteur, que sera annoncée la justice aux nations. Je l'établirai pour être la lumière des nations. Ésaïe au chapitre 42, très clairement, c'est derrière un homme, le serviteur de Dieu, que se profile celui par qui les nations seront réellement bénies. Et donc, après ce temps de préparation des siècles, la rédemption intervient et c'est en Christ qu'elle va être rendue possible et accessible universellement. On perd de vue, en lisant les évangiles, cette notion d'universalité de la mission de Christ. Mais en fait, dès sa naissance, dans les bras de Siméon, il a prononcé cette prière qu'il incarnait, dans Luc au chapitre 2, le verset 31, il incarnait la lumière et la justice annoncée à toutes les nations. Je le cite de tête, excusez-moi, ce n'est pas tout à fait exact. Je le prends. Lumière pour éclairer la nation et gloire d'Israël, ton peuple. Déjà, chez cet enfant, ceux qui étaient avertis des annonces de la parole de Dieu, qui avaient plongé leur regard dans l'Ancien Testament, voyaient en lui celui par qui les nations seraient bénies. Je cite deux ou trois autres exemples de cette universalité du salut que Christ va dessiner, à l'étonnement de son peuple d'ailleurs. Les personnes auprès desquelles il va faire la remarque de la plus grande foi qu'il ait jamais constatée. Et ces personnes, curieusement, ce sont chaque fois des personnes étrangères à la nation d'Israël. C'est la femme syrophénicienne, c'est le centurion romain, chez qui il dit « Mais chez eux, j'ai trouvé une foi que même en Israël, je n'ai pas trouvée. » Et puis Jésus, au cours de son périple, que l'on estime souvent limité à la Palestine, a fait à plusieurs reprises des incursions sur les terres étrangères pour présenter sa personne, annoncer son message, rappelez-vous entre autres de la femme samaritaine. Et puis finalement, on en arrive à la fin, lorsqu'il laisse cet ordre de mission dont on a tant parlé dimanche dernier à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Faites de toutes les nations des disciples. Jésus est venu offrir une rédemption pour toutes les nations, une proclamation d'un salut qui est universel, qui touche toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les nationalités. Et c'est quelque chose qui va se concrétiser à un autre moment, tout de suite après l'ascension de Jésus-Christ, l'événement de la Pentecôte. La Pentecôte, et je dirais, et ses suites, dans Actes au chapitre 2, dans Actes au chapitre 8, avec Corneille, avec les Samaritains, pardon, et dans Actes au chapitre 10, Corneille, ces événements inauguraux qui vont montrer que, sous le regard de témoins de l'apôtre Pierre et d'acteurs de l'apôtre Pierre, eh bien, cette promesse de la bénédiction de toutes les nations, elle s'accomplit et elle est rendue visible et audible par un événement qui est une espèce de contre-Babel, d'anti-Babel, une unité de ces peuples autour de Christ, de ces nations étrangères et de la nation juive autour de Christ, qui a été provoquée et scellée par le Saint-Esprit lui-même. Un peuple nouveau, acquis pour Dieu, autour de l'œuvre de la croix, parce que c'est l'œuvre de la croix qui sera placée constamment au centre de la prédication de l'apôtre Pierre lorsqu'il s'exprimera. Une compréhension nouvelle au moment de la Pentecôte, au moment de se parler en langue, pour louer et obéir à Dieu de la part de ces gens qui étaient auparavant dispersés et ne se comprenaient pas. Il y a là des symboles qui sont très forts. Et vous savez combien cette révolution dans l'esprit du peuple de Dieu va être difficile à instaurer, à ancrer. En octobre 2015, j'avais prêché sur le Concile de Jérusalem et ces mentalités qu'il a fallu vraiment réformer. Et dans l'apôtre Paul n'utilisera pas moins que plusieurs passages dans ses épîtres, j'ai noté deux de ces passages, pour bien faire comprendre que ce privilège dont les Juifs se vantaient, étaient fiers, il était d'être appelé peuple de Dieu, il était maintenant ouvert aux nations toutes entières, et que les païens étaient inclus dans cette bénédiction en Christ au sein de l'Église. Et il a fallu un concile même à Jérusalem, dans Acte 15, pour attester que, oui, les païens, oui, toutes les nations maintenant, avec le peuple élu, faisaient partie du dessein de Dieu de salut. Ceci n'a été qu'une anticipation finalement de ce que Christ nous présente dans l'Apocalypse, et en introduction au culte, Raph a lu un texte de l'Apocalypse qui nous montre très clairement, à la fin en particulier, que dans les temps de la fin, pour l'éternité, ce dessein de Dieu qu'il a dessiné depuis la création, eh bien, il va s'accomplir. Dans ce texte, dont je donne que quelques extraits ici, il nous est dit que la ville, la cité céleste, je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, Jésus-Christ. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Toutes les nations dont les noms sont écrits dans le livre de vie, celles qui ont accepté que Christ est leur Rédempteur et le seul sujet pour lequel ils peuvent se glorifier devant Dieu pour dire « Nous sommes de ton peuple, toutes ces nations, après le jugement, marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nid. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Les entrées à cette cité céleste sont maintenant largement ouvertes au peuple de Dieu et à toutes les nations, tous ceux qui ont été fondus maintenant en une même communauté des enfants de Dieu. Et dans cette ville, au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. L'anathème, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus de rejet, de mise à l'écart. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Voilà quelle est la perspective qui nous attend. L'achèvement du dessein de Dieu tel qu'il l'a exposé, expliqué, révélé à de multiples reprises, d'une façon parfois progressive, pour que l'humanité tout entière conçoive que nous sommes tous, dans notre diversité dont vous avez été témoins, appelés à devenir enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et ainsi, la boucle est bouclée en quelque sorte. Nous sommes partis de l'arbre de la vie. L'homme a voulu construire l'unité de l'humanité autour d'une tour. Dieu y a apporté un jugement. À la croix, Christ a opéré la rédemption pour tous les peuples, quels qu'ils soient. Le Saint-Esprit a été donné pour en attester. Et au final, on se retrouve dans l'Apocalypse devant à nouveau cet arbre de la vie. Il y a une cohésion dans l'Écriture, dans le plan de Dieu, moi qui m'émerveille, moi qui aime voir des cohérences et des choses comme ça, une logique, je suis émerveillé par cela. Mais en quoi est-ce que cela nous enseigne ? Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Je voudrais voir quelques applications simplement sur un plan pratique. Dieu fait état de sa volonté dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et cela inclut donc les peuples étrangers. Il y a une volonté divine affichée du début à la fin de l'Écriture. Je réinsiste là-dessus et nous devons bien le concevoir. Ce dessein de Dieu détermine la vocation missionnaire, que ce soit au près ou au loin, celle qu'a ratée son peuple, à qui avait été impartie cette vocation missionnaire, et que Dieu a transférée d'une certaine façon à l'Église dans ce texte de Matthieu 28, et que les premiers apôtres ont mis en œuvre et dont ils ont pu témoigner. Je lis simplement un texte, un retour de voyage, un rapport fait à l'église d'envoi, où après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Cette universalité du salut sous-tend la vocation dont nous avons très abondamment parlé dimanche dernier. Je ne reviens pas plus là-dessus, je n'insiste pas. Je vous inviterai aussi à lire un autre texte dans Éphésiens au chapitre 3, versets 6 à 12, pour que nous mesurions quelle est l'importance de l'Église en tant que telle dans ce qu'elle manifeste aux yeux de Dieu. Je vais commencer par 2, verset 19. L'apôtre Paul dit « Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors », il s'adresse à l'Église. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je saute, je passe au chapitre 3, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, l'apôtre Paul, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a révélé qu'en l'Église, un peuple nouveau qui lui est acquis était réuni. Et il dit, quelle est la fonction de l'Église entre autres choses ? C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Les phrases de l'apôtre Paul sont parfois longues et parfois tellement riches qu'elles sont difficiles à comprendre dans un premier abord. L'apôtre Paul expose ici que l'Église est à la fois, je vais employer des termes un peu plus contemporains, un laboratoire, un modèle prototype, une forme d'exposition. La richesse de la diversité de l'Église que l'apôtre Paul dit, qualifie comme provenant de la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette diversité que Dieu a écrite dans l'Église en rassemblant des peuples de toutes nations dans cette nouvelle communauté, elle est un laboratoire. Et l'apôtre Paul, un tout petit peu plus loin, comme conséquence de ce qu'il vient exposer, vous savez, c'est cette fameuse phrase introduite par « donc », « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'Église, encore imparfaite, est annonciatrice de la gloire à venir, la restauration de toutes choses que Dieu opérera à la fin des temps. « Je ferai toute chose nouvelle », dit-il. Et l'Église constitue un laboratoire dans le sens où elle nous amène dans les relations de personnes si diverses, dans les cultures, les origines, etc., à manifester l'humilité, la douceur, la patience, le support mutuel, l'amour. Rappelez-vous cette recommandation de Jésus, ce constat, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous serez reconnus comme disciples. L'amour pour préserver l'unité. C'est-à-dire que l'unité est à la fois un objectif à cultiver dans l'Église et en même temps une démonstration de cette sagesse variée de Dieu. Démonstration à qui ? Au monde. Le monde connaîtra par l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous sommes de ses disciples. Mais l'apôtre Paul ici va encore plus loin. Il dit que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire toutes les autorités spirituelles, celles que nous ne palpons pas, que nous ne voyons pas, sont constamment en émerveillement devant l'unité et l'amour que manifestent les membres de l'Église devant Dieu et par la grâce de Christ. C'est un enjeu auquel nous ne pensons probablement jamais en franchissant cette porte, j'avoue que j'y pense pas souvent, que nous sommes en fait une exposition, une démonstration, et nous sommes aussi un prototype de la gloire à venir, de la restauration finale que nous avons vue, qui est l'achèvement du dessein de Dieu conçu depuis la création jusqu'à la fin des temps. Et cela, ça veut dire beaucoup pour nous, puisque nous sommes vus, nous sommes observés par le monde, nous sommes vus même par les puissances spirituelles célestes. Nos mots, nos comportements, nos paroles, nos relations témoignent du fait que dans la diversité, l'unité est possible. Et comme le disait Raph tout à l'heure, ce que tous les politiciens du monde, les penseurs, ont rêvé de réaliser, Christ l'a réalisé dans l'Église. Si nous répondons à cet objectif que Dieu nous fixe de l'unité dans l'amour au sein de l'Église. Je connais l'Église depuis de nombreuses décennies. À deux reprises au moins pendant ces décennies, il y a eu dans l'Église des tentatives de quelques personnes de dire « ce n'est plus possible d'avoir des cultes où il y a des Français d'origine qui expriment de belles prières dans des mots choisis et bien compréhensibles et des gens d'origine étrangère qui prient avec un accent qu'on ne comprend pas toujours et qui ont fait la proposition suivante. » qui était d'avoir deux cultes, un culte pour les Français d'origine, un culte pour les étrangers immigrés. Je me souviens de la réaction de quelques-uns des anciens à ce moment-là, qui se sont élevés comme une barrière pour dire « non, ce n'est pas ce que Dieu a voulu, et ce n'est toujours pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous vivions dans cette unité diverse, grâce à Dieu, nous n'aurons pas chaque dimanche des cultes avec des chants que nous ne comprenons pas, que nous avons du mal à prononcer. Mais nous savons que cette diversité, elle existe et qu'au travers de cette diversité, Dieu manifeste quelque chose. Il manifeste un dessein éternel d'une sagesse inconcevable. Et il est en train de fournir la démonstration que ce qu'aucun des hommes, ni en Éden, ni en Babel ensuite, n'ont pu accomplir, lui l'a accompli en Jésus-Christ. Et cela a pris naissance à la Pentecôte, et cela se poursuivra jusqu'à l'éternité à venir. C'est un enjeu considérable quand nous considérons l'Église, de cette façon. L'Église est un terrain où nous sommes appelés à intégrer une double identité. J'ai déjà lu ce verset d'Éphésiens au chapitre 2, 19. « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Et dans l'épître de Pierre, l'apôtre Pierre semble définir une identité qui est toute différente. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, bien-aimé. » Je saute un verset. « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Une double identité. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et en même temps, nous sommes, par rapport au monde qui nous entoure, étrangers et voyageurs, de passage simplement. Et ceci, qui reprend un peu ce concept de Dieu depuis la création jusqu'à l'éternité, de l'Église, une entité particulière qu'il s'est acquise, nous place là encore vis-à-vis de nos responsabilités. L'Église en tant que maison de Dieu est une des priorités pour nous. Mais en tant qu'étrangers, nous avons besoin de nous démarquer du monde tout en étant au milieu du monde pour répondre, comme Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples, à cette vocation de témoigner. Nous avons besoin de vivre avec cette double identité. Et cela se concrétise dans la vie de l'Église, dans sa composition, dans ses activités, dans ses façons de les concevoir, ces activités. Dans l'Écriture, encore une fois, lorsque nous considérons, et nous aurons besoin, je pense, de revenir sur ce concept, nous concevons la notion de l'étranger. L'Écriture nous place devant la nécessité de l'accueil, de l'hospitalité. Dans Hébreux, l'auteur de l'Épître dit qu'en exerçant l'hospitalité, c'est-à-dire en accueillant des gens qu'ils ne connaissaient pas, certains ont même hébergé des anges, des envoyés de Dieu véritablement. Et Jésus, vous connaissez ce texte qui est souvent mal compris dans Matthieu au chapitre 25, où il jugera les nations sur la base de ce qu'elles ont fait pour les plus petits de ses frères. Jésus dit, j'ai eu faim, etc., j'ai eu soif, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Et les disciples lui dirent, mais quand est-ce que nous t'avons vu étranger, t'avons-nous recueilli? Verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. L'Église a une vocation particulière, du soin et du souci, de la bienveillance, du secours. Dans un autre texte de Galates au chapitre 6, 10, il dit de faire du bien à tous les hommes et particulièrement aux frères dans la foi. Nous avons une priorité au soutien mutuel, au secours mutuel. Et dans notre Église, depuis de nombreuses années, nous avons fondé une structure qui a pour but de veiller à cela. Que l'Église, parce qu'elle est diverse, mais en même temps parce qu'elle est unie et parce qu'elle est sous le regard de Dieu, une communauté, son peuple, au sein de ce peuple, nous avons besoin d'une particulière attention les uns aux autres et particulièrement pour ceux qui sont étrangers. Voilà brossé quelques particularités, quelques applications pratiques que nous pouvons dégager de ce dessein de Dieu, de cette histoire qu'il brosse dans l'Écriture. Et pour terminer, je voudrais simplement attirer votre attention sur cette remarquable équilibre qu'il y a dans ce que nous avons vu entre le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà le peuple de Dieu, mais pas encore. Ne nous étonnons pas d'y trouver des imperfections. Entre le dedans et le dehors, nous avons une double mission, mais n'oublions pas l'une au détriment de l'autre. Entre ce qui est au près et ce qui est au loin, nous avons cette double mission. Nous avons cette double mission entre le fait d'être hors du monde, mais en même temps être au milieu du monde pour être témoin. Il y a là tout un équilibre, de façon à ce que nous puissions véritablement glorifier Dieu en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu tel qu'il l'a voulu, un peuple uni dans lequel des relations d'amour sont vraiment prévalentes. Amen.